Bonjour à tous, bienvenue au lycée Hélène Boucher. Nous sommes les élèves des classes de terminale scientifique et à l'occasion du 15e SIDAction, nous allons parler du virus du sida avec les invités de la Tête au Carré. Et nous attendons vos messages sur franceinter.com pour participer avec nous à cette émission. Mathieu Vidard, bonjour.
Bonjour Cécile, bonjour à tous. Merci donc de nous accueillir dans votre lycée qui se trouve sur le cours de Vincennes à Paris pour une nouvelle Tête au Carré en partenariat avec l'Université de tous les savoirs et donc effectivement à l'occasion du 15e SIDAction qui se déroule pendant tout le week-end. Nous avons choisi de parler aujourd'hui du virus du sida avec notre invité qui va répondre aux questions préparées par les élèves. Et cet invité, c'est le docteur Pierre de Truchy. Bonjour à vous.
Bonjour.
Pierre de Truchy, vous êtes médecin hospitalier dans le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, en région parisienne. Les élèves vont donc parler avec vous des origines du virus du sida, de sa transmission, de la vie avec la maladie et des perspectives également pour l'avenir. Et c'est sur ces thèmes que nous allons discuter avec également les questions des auditeurs. À vos côtés se trouve le philosophe Yves Michaud pour l'Université de tous les savoirs. Bonjour Yves.
Bonjour Mathieu.
Alors vous interviendrez et réagirez pendant l'émission. Et puis nous sommes également avec Olivier Mine, le proviseur du lycée Hélène Boucher. Et on se trouve donc ici. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et voilà donc pour le programme de cette nouvelle Tête au Carré avec l'Université de tous les savoirs.
La Tête au Carré. Mathieu Vidard.
Le magazine scientifique de France Inter.
De France Inter.
Olivier Mine, donc merci de nous accueillir ici dans votre établissement. Alors, un petit mot sur Hélène Boucher, qui était-elle ?
Hélène Boucher, c'est une aviatrice qui a conquis le record féminin de vitesse en 1934 et qui, pour ses vertus féminines, a été l'incarnation des valeurs à l'occasion de la création de ce lycée en 1937.
Alors, votre établissement accueille combien d'élèves ?
Actuellement, nous avons 1850 élèves, 550 élèves de collège et environ 1300 élèves de lycée.
Alors, il existe dans votre lycée une section européenne à vocation scientifique ?
C'est exact. Nos élèves de section européenne se partagent selon les sections entre littéraires, économistes et scientifiques. Et ceux d'entre eux qui sont scientifiques suivent une partie de leur enseignement de biologie, on dit de sciences de la vie et de la terre, en langue anglaise.
En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir ici chez vous. Et puis je voudrais remercier également les deux professeurs des sciences de la vie et de la terre, Dominique Naon et Michel Lyons, qui ont travaillé avec les élèves de terminale sur ce thème du sida. Alors c'est donc aujourd'hui jusqu'à dimanche la 15e édition du SIDAction organisée avec les chaînes de télé et de radio qui se mobilisent, vous le savez, pour récolter des dons afin de poursuivre la recherche et éradiquer donc le virus du sida. Vous pouvez dès maintenant faire vos promesses de dons en appelant le 110, numéro d'appel gratuit, ou en allant sur le site www.sidaction.org. Et alors que chaque minute dans le monde, 6 personnes meurent du sida, les propos tenus mardi par le pape en route vers le Cameroun au sujet du préservatif ont particulièrement choqué l'opinion publique du monde entier. La déclaration du pape a soulevé l'indignation. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec l'écrivain et prix Goncourt, Gilles Leroy. Bonjour Gilles Leroy. Merci d'être avec nous en ligne. On va vous entendre donc dans un instant au sujet des propos du pape. Mais pour resituer d'abord le contexte de cette déclaration sur les préservatifs, on va tout de suite entendre un extrait du journal de France Inter de mercredi matin avec un extrait du reportage d'Éric Valmire qui suit le pape en ce moment en Afrique.
Bien sûr, il y a la ferveur populaire au passage de la Papa Mobile.
Eh bien, le pape est descendu. Le pape Benoît XVI a bien foulé le sol camerounais.
Mais l'on retiendra surtout les paroles prononcées par Benoît XVI pendant son voyage au sujet de la lutte contre le sida.
Je dirais que non si può superare questo problema della AIDS con la distribuzione di preservativi, al contrario, aumentano il problema.
On ne peut pas résoudre le problème du sida avec la distribution des préservatifs. Au contraire, ils aggravent le problème. La solution est double. D'abord, une humanisation de la sexualité, un renouveau spirituel, humain, intérieur, qui permet ainsi de se comporter différemment avec les autres. Et deuxièmement, une amitié, même une disponibilité pour les personnes qui souffrent. La femme du président camerounais appréciera au passage, Chantal Billet dirige une fondation qui finance la recherche contre le sida. Au Cameroun, 500 000 personnes vivent avec le virus. Le pape va plus loin que son prédécesseur. Pour Jean-Paul II, le préservatif n'était pas une solution. Pour Benoît XVI, il aggrave le problème. À Yaoundé, Éric Valmire, France Inter.
Alors, Gilles Leroy, vous êtes en ligne avec nous. Alors, on a un léger décalage aujourd'hui, donc il ne faut pas s'inquiéter. Comment est-ce que vous avez réagi à ces déclarations du pape au sujet du préservatif, donc à l'occasion de ce voyage en Afrique ?
D'abord, avec beaucoup d'émotion. C'est surtout l'émotion qui m'a submergé, là.
la consternation, la colère. Moi, j'appartiens à une génération qui a été frappée de plein fouet quand j'avais 20-25 ans avec l'arrivée de cette pandémie. Et c'est très surprenant d'entendre tout à coup tomber du ciel, si l'on peut dire, en fait, c'est très obscur, des ténèbres, tomber des ténèbres de tels propos qui sont ahurissants. Enfin, c'est une contre-vérité scientifique, il n'y a aucune... je ne sais même pas comment on peut dire des choses aussi légères, aussi aberrantes. Voilà. On a la preuve que le préservatif est le meilleur moyen de se protéger lors de rapports sexuels.
Alors, le pape est évidemment un guide spirituel dans de nombreux pays. Il a donc une responsabilité très importante dans le contenu de ses propos. Cette déclaration vous semble dangereuse, Gilles Leroy ?
Oui, c'est ce que j'écris dans le texte de la pétition qui va se trouver sur le site du Nouvel Observateur. C'est que c'est quelqu'un qui a évidemment une énorme influence morale sur le monde, et particulièrement sur un continent comme l'Afrique. Et ses propos sont encore, je ne sais pas comment dire, sont encore plus criminels du fait qu'il ait cette influence. Mais quand on a une influence telle, on a aussi une responsabilité à l'aune, à la mesure de cette influence. Et je ne crois pas que le pape Benoît XVI ait pris la mesure de sa responsabilité dans ce drame mondial. Enfin, je vous dis, je reste très très sidéré par tout ça.
Alors du coup, vous avez pris l'initiative d'une pétition, d'un texte qui est lancé donc aujourd'hui même sur le site du Nouvel Observateur et dans laquelle vous demandez au pape de se rétracter au sujet de ses déclarations.
Il ne s'agit pas de condamner les propos, ça n'a aucun sens. Il faut que les peuples qui sont particulièrement décimés par cette épidémie, cette pandémie, comprennent et entendent de sa bouche que non, le préservatif n'aggrave pas la situation, qu'au contraire, il la sauve. Il faut vraiment qu'il se rétracte. Michel Kazatchkine l'a dit aussi. Hein, le professeur Kazatchkine, qui est un grand nom de la lutte contre le sida, je crois qu'il fait autorité quand même et il doit se rétracter. Vraiment, je le pense sincèrement. Il ne faut pas lâcher. Sur ce coup-là, il ne faut pas lâcher.
Alors, Gilles Leroy, vous avez déjà des signataires à cette pétition, dont Françoise Barré-Sinoussi, le prix Nobel de médecine cette année. Donc, on met en lien le site de bibliops.com, c'est le site d'actualité littéraire du Nouvel Observateur qui héberge donc cette pétition. Et ce texte donc est en lien sur le site de La Tête au Carré. Alors, docteur Pierre de Truchy, une réaction sur les déclarations du pape hein ?
Alors, sans se placer sur le fond religieux, il est de la responsabilité personnelle de l'individu humain de protéger soi-même et les gens avec qui il est. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, elle est plus scientifique, c'est que ça fait 15 ans ou 20 ans que les seules campagnes de prévention qu'il y a en Afrique, c'est fidélité et abstinence, et ça n'a absolument rien donné, et l'épidémie progresse toujours. Donc, en termes de santé publique, on ne peut absolument pas se baser là-dessus.
Yves Michaud, une réaction de votre part ?
Un, c'est une belle ânerie. Deux, si on demandait à tous les gens qui disent des âneries de se rétracter, ça deviendrait terrible. Et puis trois, je me demande quelle est la fatalité qui fait que les gens disent des sottises quand ils sont en avion, en général.
Oui.
Hein, parce que vous rappelez Jospin qui avait dit que Chirac était vieux, usé, fatigué. Il est arrivé des mésaventures pareilles à Sarkozy et à Ségolène Royal. Là, c'est le pape.
Oui. Comme c'est quoi, l'effet de la pesanteur,
se rapprocher du ciel n'est pas forcément inspirant.
Gilles Leroy, en tout cas, merci beaucoup de cette intervention. Donc, le texte est en ligne depuis quelques minutes au site donc, de bibliops.com sur le Nouvel Observateur et en lien sur La Tête au Carré pour faciliter l'accès justement pour tous ceux qui souhaitent signer ce texte donc sous forme de pétition. Merci beaucoup, Gilles Leroy.
Merci, Mathieu.
Bonne journée à vous. Allez, on marque une pause et on retrouve dans un instant et sans plus attendre les élèves du lycée Hélène Boucher avec toutes les questions autour du sida.
Journée spéciale francophonie.
Et c'est aujourd'hui la journée internationale de la francophonie avec pour démarrer cette Tête au Carré, Vincent Delerme, extrait de son album 15 chansons qui est sorti en partenariat avec France Inter.
Alors, Pablo.
La Tête au Carré.
Une question pour toi.
Question.
Bienvenue.
Donc moi, c'était surtout une question.
On va changer de micro.
Tu as une opinion à ce sujet, toi ? Ou quelqu'un a une opinion ici ?
Non, c'était le bon micro, en fait. Donc on va revenir sur le micro vert. Tout va bien
sur France Inter.
Alors nous sommes avec les élèves des classes de terminale du lycée scientifique Hélène Boucher à Paris qui ont donc préparé des questions pour notre invité le docteur Pierre de Truchy. Vous êtes, je le rappelle, médecin hospitalier dans le service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. On parle donc du sida avec vous à l'occasion du 15e SIDAction et donc on va tout de suite laisser la parole aux élèves. Et c'est à nouveau Cécile qui s'y colle avec la première question sur les origines du sida. C'est le premier thème dont on va parler.
Donc rebonjour. À l'origine du sida, il existe différentes thèses qui se disputent, donc celle du singe, celle de vaccin, et je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous.
Alors, on a beaucoup avancé ces derniers temps pour essayer de comprendre ça un peu mieux. Alors d'abord, je dirais que l'origine du sida, ça dépend de quoi on parle. Si c'est le virus, effectivement, on pourra dire que l'origine est chez le virus du singe. Si c'est l'épidémie de sida, l'origine, c'est l'homme. Alors, on va reprendre ça un peu pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ces derniers temps, il y a une équipe franco-camerounaise qui a fait des études très intéressantes dans la forêt équatoriale. Et ils se sont baladés dans cette forêt à la recherche de crottes de chimpanzés, dans lesquels ils ont mis au point des techniques scientifiques pour, d'une part, identifier les individus, chimpanzés différents, et d'autre part, identifier des parties de gènes et des anticorps des virus du SIV chimpanzé, c'est-à-dire du virus du sida du chimpanzé. Et ils ont retrouvé une fréquence élevée de positivité chez ces chimpanzés dans la forêt, de l'ordre de jusqu'à 20 à 30% des chimpanzés infectés. Et ces chimpanzés étaient infectés par des virus qui étaient apparentés à chacun des sous-types des virus humains qu'on rencontre dans l'Afrique équatoriale. Et donc ces études ont démontré qu'effectivement, il y a une origine commune entre le virus du chimpanzé et celui de l'homme. Alors après, il y a eu manifestement un passage du virus du chimpanzé à l'homme, probablement par la chasse, des blessures, l'alimentation avec les chimpanzés, etc.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mutation, hein, finalement, ce passage du virus du singe à l'homme.
C'est un transfert de virus d'espèce à espèce. Mm-hmm. Hein. Et c'est ensuite chez l'homme que ce virus qui est très variable, dont le génome se modifie effectivement à chaque multiplication de façon assez facile, ce virus va se modifier chez l'homme, et plus il va passer successivement chez des hommes différents, plus il va devenir, en fait, agressif. Ce virus, chez le chimpanzé sauvage, il donne peu de maladies, quasiment pas de maladies. Chez l'homme, au contraire, où il y a un matériel génétique différent et où il y a des réponses à l'infection qui sont différentes, il va donner le sida. L'épidémie, après, elle a démarré sûrement parce que il y avait un exode rural. Les gens ont été sur les routes, ont rejoint les capitales. Et cette maladie qui était probablement pendant quelques dizaines d'années limitée dans des coins perdus de la forêt équatoriale s'est retrouvée dans des zones de population élevées où il y a eu une transmission importante et ensuite une transmission dans l'ensemble du monde à partir donc de l'Afrique centrale.
On parle à quelle échelle, justement, Pierre de Truchy, sur l'histoire du virus? Ça remonte à quand, finalement?
Alors, les premiers cas qu'on a retrouvés rétrospectivement, c'était des sérums qui avaient été congelés. Et on a un cas de la fin des années 50, dont on sait que c'est quelqu'un qui est mort et qui avait ce virus.
Donc il y avait déjà des cas de sida, on peut le dire, dans les années 60, quoi, finalement?
Effectivement. Et puis, il y a eu des modélisations mathématiques à partir des variations du virus comme le virus modifie son génome extrêmement fréquemment, on peut calculer en fonction des variations du génome du virus la durée de multiplication. Et ces modélisations mathématiques montrent que l'émergence chez l'homme est autour des années 1930 en Afrique centrale.
Mmh. Avec donc la découverte en 1980 au Centre de contrôle des maladies d'Atlanta, donc du virus, et puis l'identification à l'Institut Pasteur en 1983, pour redonner des dates dans cette chronologie de la maladie.
Alors, effectivement, c'était isolé en 83 à partir d'un patient qui était hospitalisé à Paris, à l'hôpital Claude Bernard, un patient qui avait de la fièvre et simplement des ganglions trop grands. Mmh.
Alors aujourd'hui, donc, la prévalence, l'incidence du sida dans le monde à la fin 2007, hein, ce sont les chiffres qu'on a actuellement, concernait 33 millions de personnes, avec 22 millions de personnes atteintes rien qu'en Afrique subsaharienne. Alors en ce qui concerne les pays du Nord, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que le sida est maîtrisé depuis l'apparition de la maladie en 1981 ?
Alors on ne peut absolument pas dire qu'il est maîtrisé aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France où il y a toujours autant de nouvelles contaminations, c'est à peu près 6000 par an, mm-hmm. hein, donc le problème n'est pas terminé. Si on parle du Nord en général, il faut aussi tenir compte de ce qui se passe en Europe de l'Est, hein, dans les pays de l'ex-URSS où il y a une explosion de l'épidémie dans ces dernières années. Et puis il y a toujours une progression plus récente, mais très importante aussi, en Asie du Sud et du Sud-Est, et en Amérique du Sud.
Donc 1983, découverte du virus par l'équipe du professeur Luc Montagnier avec Françoise Barré-Sinoussi et Jean-Claude Sherman, donc dans le laboratoire des rétrovirus. Alors voilà un petit peu pour l'historique, hein, et l'origine de la maladie. Donc on va bien sûr parler des modes de transmission. Je crois que c'est Victoria qui a une question à poser. Donc on va te passer le micro tout de suite. Voilà, Cécile, le micro jaune pour Victoria. Bonjour, Victoria.
Bonjour.
On t'écoute.
Alors, ma question est, pourquoi n'y a-t-il pas de transmission du VIH par la barrière placentaire entre la mère et le fœtus?
Alors, effectivement, il n'y a quasiment pas de transmission pendant la grossesse, hein, d'une mère séropositive à son bébé, à son fœtus dans le ventre. Ben, c'est parce que la nature humaine est bien faite et que le placenta, ça sert à quelque chose. C'est un très bon filtre. Et ça va filtrer aussi, par exemple, beaucoup de médicaments et beaucoup de toxiques, ce qui fait que le bébé ne va pas être exposé. Alors, effectivement, pour le virus VIH, ça passe normalement pas. Il y a quelques cas, quand même, d'enfants dont le virus a été transmis pendant le déroulement de la grossesse. Et généralement, c'est des enfants qui vont avoir une infection précoce à la naissance et grave. Mmh. Mais c'est une minorité d'enfants.
Alors, ONU-SIDA, justement, met en avant les mères et les enfants, hein, dans ces messages. Est-ce que les enfants restent finalement actuellement encore la face cachée de l'épidémie?
Alors, oui, ça, c'est surtout au Sud. Hein, dans des pays comme l'Afrique du Sud, ou le Botswana, par exemple, il y a 20 à 25% des femmes en âge de procréer qui sont infectées par le VIH. Et donc, ils vont risquer de transmettre à leur bébé ce virus. En l'absence de traitement, le risque de transmission il est de l'ordre de 25 à 30%. Hein, c'est-à-dire qu'un enfant sur 4 ou un enfant sur 3 va être infecté à la naissance. Hein. Et cette transmission, elle se fait au moment du travail et de l'accouchement, c'est-à-dire en toute fin de grossesse, ou éventuellement, ensuite, au moment de l'allaitement, puisqu'on sait que l'allaitement peut transmettre le virus du sida si on utilise du lait maternel et que la mère n'est pas traitée.
Alors justement, quelle est la meilleure façon de protéger le bébé quand la maman est atteinte?
Alors, il n'y en a pas 36 000. La façon de protéger le bébé, c'est de traiter la mère. Le risque principal de transmission, c'est lié à l'intensité de la multiplication virale chez la mère. Plus le virus se multiplie fortement chez la mère, plus le risque de transmission au nouveau-né est important. Si on donne des traitements qui bloquent cette multiplication virale chez la mère, on va réduire considérablement le risque de transmission au nouveau-né.
Marie Bayane, tu as une question à poser à notre invité Pierre de Truchy. Bonjour à toi.
Oui, bonjour. Alors j'aimerais vous demander déjà quelles sont les probabilités de contamination en fonction des conduites sexuelles dans le cas d'une contamination par cette voie. Et ensuite, j'aimerais vous demander s'il est toujours justifié d'éloigner, par exemple, les homosexuels du don du sang, parce qu'en général, c'était le prétexte invoqué.
C'est le cas, toujours, d'ailleurs, hein, effectivement.
Alors, effectivement, donc, il y a deux questions. La première, c'est qu'effectivement, il y a des pratiques sexuelles qui donnent un risque de transmission qui est différent. Hein. La première chose, c'est que le contact cutané avec le virus ou avec des cellules sanguines, ne donne pas lieu à transmission. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas, à l'état naturel et sans intervention des scientifiques au laboratoire, on ne peut pas voir de particules virales actives se multipliant dans la salive. Hein. Malgré tout, et c'est toujours une question qui est difficile, il y a un risque de transmission quand même dans des relations bucogénitales, dans la mesure où il peut y avoir une transmission de cellules sanguines qui viennent de la muqueuse buccale et de la muqueuse génitale. Ensuite, si on va par ordre croissant de risque, il y a les relations vaginales, avec toujours une injustice qui est souvent le cas dans notre monde, où les femmes ont plus de risques de s'infecter à partir d'un homme infecté que les hommes à partir d'une femme infectée. Mais enfin, ça se passe dans les deux sens quand même.
Et pour quelle raison ?
Alors, c'est probablement parce qu'il y a un inoculum de virus plus important à partir du sperme. Mmh. Et donc, il y a une muqueuse féminine qui est probablement plus apte à accueillir, en fait, une réplication virale précoce. Et puis, enfin, il y a des relations entre muqueuses fragiles, et par exemple, c'est le cas des relations anales, où le risque, là, est encore beaucoup plus important.
Alors, justement, un mot sur les relations sexuelles. Est-ce que ça constitue le principal facteur de transmission du VIH, puisqu'on associe encore toujours aujourd'hui le VIH au sexe, hein ? C'est assez controversé, d'ailleurs.
Alors, c'est pas, à mon avis, pas controversable. C'est-à-dire que oui, c'est le mode de transmission actuel. Il y a effectivement, comme autre mode de transmission, ce dont on a parlé, c'est-à-dire la transmission de la mère à l'enfant. Et enfin, la transmission par le sang, alors ce qui était le cas par les transfusions, mais ça n'est plus le cas maintenant depuis que les transfusions, en tout cas en Europe et en France, sont sécurisées. Et c'était le cas chez les toxicomanes intraveineux. Et c'est pratiquement plus le cas maintenant que les toxicomanes utilisent très largement des seringues et des aiguilles propres.
Et alors la question de Marie Bayan, donc sur le fait d'écarter les homosexuels du don du sang, ce qui est une réalité que beaucoup ignorent d'ailleurs encore aujourd'hui.
Alors je pense qu'elle n'a plus beaucoup de justifications à l'heure actuelle. Maintenant qu'on a des tests extrêmement fiables de détection du virus et que ça devrait être mis en question. Si ça persiste encore, c'est parce qu'il y a effectivement, au moment où on s'infecte par le virus du sida pour la première fois, il y a une petite phase qui dure quelques jours, maintenant à peu près une quinzaine de jours ou maximum une vingtaine de jours, où on n'a pas encore les anticorps et où on commence à avoir du virus. Et donc c'est cette phase où on a une infection latente qui est en train de s'installer, qui est peut-être encore un risque chez les gens qui ont un risque sexuel récent. Mais je dirais que c'est la même chose pour les homosexuels que pour les hétérosexuels à partenaires multiples, par exemple.
Jessica, élève de terminale scientifique du lycée Hélène Boucher, bonjour.
Bonjour.
Une question.
Oui, une question à peu près sur le même sujet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment et pourquoi justement est-ce que le virus du sida est apparu chez les homosexuels, mais bon, sachant que vous avez à peu près répondu à la question.
Alors, c'est vrai qu'on l'a trouvé en premier lieu sur la côte ouest américaine, en Californie, où il y a eu une infection qui était une infection inhabituelle, une infection pulmonaire, avec un germe qui s'appelle un pneumocystis, qui était complètement inhabituelle. Et on a vu plusieurs cas dans les années 80, au début des années 80, de cette pneumocystose pulmonaire. Et les enquêtes des Américains à ce moment-là ont montré que cette pneumocystose apparaissait chez des homosexuels. Et ça a été à l'origine de la découverte du sida. Alors, le lien direct, il est lié au risque sexuel, c'est-à-dire qu'effectivement, ces homosexuels avaient un risque plus important, et donc c'est les premiers qui ont été infectés, et qui avaient d'ailleurs un nombre de partenaires important. Hein. Et le lien, il vient probablement, effectivement, de contacts à partir de l'Afrique, on ne sait pas très bien comment. Il y a des hypothèses qui font apparaître un relais en Haïti, et puis ensuite des Haïtiens qui seraient arrivés en Californie.
Pierre de Truchy, une question par courriel de Sophie qui nous écoute à Besançon, au sujet du préservatif féminin. J'aimerais, dit-elle, qu'on arrête l'hypocrisie sur ce préservatif féminin. La capote, c'est super rapide, super vite mis, et dans l'acte absolument pas perturbant. Alors, soit on fait des efforts sur le préservatif féminin, soit on n'en parle pas et on dit que c'est la capote ou pas d'acte sexuel.
Alors, je dirais c'est la capote ou pas d'acte sexuel, mais la capote féminine, c'en est une quand même. C'est un gros avantage, c'est que c'est la femme qui est maître de mettre la capote ou pas. Et ça, c'est l'avantage important de la capote féminine. Par contre, effectivement, c'est pas très commode. C'est difficile à mettre, il faut apprendre. Mais les gens qui font ça régulièrement, finalement, sont assez contents et trouvent qu'on peut créer une relation poétique avec la capote féminine.
Tiens, et le prix de cette capote hein ?
Alors, c'est un peu plus cher, puisqu'on l'a probablement autour de 2-3 euros actuellement. Mais il y a pas mal de campagnes où il y a possibilité de distribution et de campagnes de prévention avec des distributions gratuites de capotes féminines.
On la trouve en pharmacie, comme la capote masculine.
On la trouve en pharmacie, oui.
Pierre de Truchy, vous restez avec nous. Yves Michaud également pour l'université de tous les savoirs et donc les questions des élèves du lycée Hélène Boucher.
J'appris j'étais séropositif en 89. Ça faisait 8 jours, je savais que j'étais séropo, tentative de suicide. Je ne pouvais pas supporter. Je suis tombé sur un psychiatre qui m'a parlé d'une association qui pourrait peut-être m'aider. Aide. Et là, un bénévole m'a dit « Mais tu sais, t'es pas malade, t'es porteur du germe. » Je suis allé voir mon père, enfin mes parents, qui habitaient le Pas-de-Calais. Et mon père m'a sorti, ah, t'es pédé, et en plus, tu nous amènes la peste. Dégage.
Voilà un extrait d'un documentaire dont on avait parlé d'ailleurs dans l'émission, qui s'appelle Face au sida, documentaire de Judith Pasquier, qui avait été diffusé sur France 2, ce qui va nous permettre justement de parler de la maladie et de la façon dont on peut vivre avec le virus. Et c'est Marion qui va commencer sur ce thème avec une question. Bonjour Marion.
Bonjour. Alors, j'aimerais vous demander, selon vous, aujourd'hui, parce qu'on a des chiffres assez approximatifs à propos de l'espérance de vie du sida et s'il y a des différences entre les pays du Nord et les pays du Sud au niveau de l'espérance de vie du sida.
Alors, docteur Pierre de Truchy.
Oui, alors, effectivement, il y a des grosses différences entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire qu'on est encore au Sud avec des problèmes d'accès aux médicaments qui font que beaucoup de gens ne sont pas traités. Et si les gens ne sont pas traités, il va y avoir une multiplication virale au cours des années qui va entraîner une cascade de réactions inflammatoires qui va aboutir à une immunodépression, c'est-à-dire à la perte des défenses, et donc au sida maladie et au décès. Au Nord, ce n'est plus la même chose, puisqu'on a accès maintenant à des combinaisons thérapeutiques efficaces depuis maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans, puisque c'est 96. Et grâce à ces combinaisons efficaces, on arrête la multiplication virale complètement. On ne supprime pas le virus qui reste présent dans l'organisme, mais on arrête la multiplication virale. Donc on calme tout, on calme cette réaction inflammatoire excessive de l'organisme, et donc on récupère des défenses. On n'est donc plus malade du sida. Et il y a plusieurs études au Nord, notamment en France, qui ont démontré que aujourd'hui, cette année, quelqu'un qui a un traitement efficace avec un virus bien bloqué et une remontée des défenses avec des lymphocytes T4 élevés dans le sang a une espérance de vie qui rejoint celle de la population générale.
Ça, c'est une des révolutions hein, quand même dans le domaine de la maladie.
Et ça, c'est une vraie révolution. On pourrait mettre quand même un tout petit bémol là-dessus. C'est que quand même, on vit d'une part avec des médicaments et des effets secondaires potentiels de ces médicaments. Et deuxièmement, avec probablement certains autres facteurs de risque en excès. Et par exemple, ce qu'on voit actuellement chez les patients qu'on suit, c'est un excès de risque cardiovasculaire, et donc de pathologies cardiovasculaires, d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux, etc. Et ça a un âge un peu inférieur à ce qu'on observerait dans la population générale. Hein. Probablement aussi un excès de certains cancers, surtout pour des cancers qui viennent là aussi un peu plus tôt dans la vie que quelqu'un qui ne serait pas séropositif.
Et on parle des pays du Nord, hein. La précision est importante.
Là, on parle
sur l'espérance
des pays
de vie
Nord.
Gagnée. Hein.
Au Sud, hein, les gens continuent à mourir, mais ils continuent à mourir des infections liées au déficit immunitaire.
José, bonjour. Bonjour. Une question sur le micro jaune.
Bonjour. Alors, vous avez parlé du traitement lié à la maladie et des effets secondaires. Moi, justement, j'aimerais savoir quels sont les effets secondaires de cette maladie, parce que beaucoup de gens pensent que maintenant on attrape le sida, c'est pas grave, il y a les médicaments. Et moi j'aimerais que vous...
Alors, il y a les effets secondaires de la maladie et les effets secondaires des médicaments. Alors, les effets secondaires de la maladie, c'est ça, c'est cette chute de l'immunité et des défenses, et donc des infections, une fragilité vis-à-vis de toutes les maladies qu'on peut avoir. Les effets secondaires des médicaments, ben là aussi, ça a évolué. On a eu au début, à la fin des années 90, quand on a eu les premières trithérapies, des traitements qui étaient lourds, avec beaucoup d'effets secondaires, beaucoup de difficultés à tolérer un nombre élevé de comprimés et de pilules par jour, des diarrhées, des effets digestifs, cutanés, etc. Et c'est vrai que là aussi, on a fait beaucoup de progrès ces dernières années, où maintenant, on a des combinaisons pour des virus qui sont sensibles, c'est-à-dire qui n'ont pas acquis de résistance, des combinaisons où on peut faire des traitements à un ou deux ou trois comprimés par jour, avec une efficacité importante et une tolérance qui est bien meilleure.
Alors, une question d'Anna. Bonjour, Anna.
Bonjour. Alors, vous venez de dire qu'au Sud, on était moins soignés, on avait moins accès aux soins. Donc, qu'est-ce qui est mis aujourd'hui en œuvre pour favoriser l'accès aux soins dans les pays en voie de développement ?
Alors, effectivement, il y a beaucoup de progrès quand même. Hein. Quasiment, en l'an 2000, entre 2000 et 2003, il n'y avait quasiment aucun accès à des traitements efficaces au Sud, notamment en Afrique. Depuis cette date, chaque année, le nombre de personnes traitées augmente de façon importante. Hein, et on peut estimer actuellement qu'il y a plusieurs millions de personnes traitées en Afrique. Alors ça, ça se fait essentiellement grâce à des programmes nationaux dans chaque pays qui sont déposés auprès d'organismes internationaux, et notamment un organisme important qui est le Fonds mondial pour la tuberculose, le sida et le paludisme, et qui finance ces programmes de traitement et d'accès au traitement. Donc la plupart des pays maintenant peuvent développer ce type de programme avec une obtention de médicaments à coût réduit, puisqu'il y a eu quelques efforts des firmes pharmaceutiques pour aussi réduire les coûts, avec l'utilisation des médicaments génériques qui sont aussi à moindre coût. Le problème qui reste actuellement, c'est plutôt l'accès aux soins de ces populations. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des médicaments. Il faut encore qu'il n'y ait pas de rupture de stock de médicaments, etc. C'est assez compliqué. Mais on arrive à avoir des médicaments. Mais le problème est qu'il n'y a que quelques centres encore qui ont l'infrastructure sanitaire pour donner un traitement dans de bonnes conditions et exercer une surveillance efficace. Ce n'est pas le cas partout.
Pierre de Truchy, on reviendra avec vous sur les effets secondaires. Hein. Tout à l'heure, on va développer cette question. Alors, on me fait simplement signe qu'on doit interrompre l'émission quelques instants pour un message d'alerte enlèvement enfant. Donc, on parlait avec vous, Pierre de Truchy, des effets secondaires de la maladie. C'est une question de José. J'aimerais bien qu'on creuse un petit peu quand même cette idée, parce qu'évidemment, maintenant, on a simplifié visiblement les traitements. Est-ce qu'on arrive d'abord à donner une seule pilule aux malades ou pas ? Alors, avec ces trithérapies.
Alors, ça peut être le cas dans certains cas. Avec un médicament qui va sortir bientôt en France, où trois produits différents sont combinés dans le même médicament. Tout le monde ne pourra pas avoir ce traitement-là, parce qu'un certain nombre des patients traités ont besoin de molécules différentes, ne tolèrent pas l'un des médicaments qui est présent, ou ont des résistances du virus à certains produits qui empêchent d'utiliser celui-là. Sur les effets secondaires, pour revenir encore, je dirais qu'il y a deux choses importantes. Il y a premièrement des effets secondaires un peu immédiats, c'est-à-dire on prend la pilule et on ressent quelque chose. Des troubles digestifs, mal à la tête, etc. Ça, on a amélioré les choses et c'est de moins en moins le cas. Et puis il y a toute une série d'effets secondaires à plus long terme. Avec certains médicaments, on a vu des modifications de la répartition des graisses, des augmentations du cholestérol dans le sang, qui constituent un risque cardiovasculaire, par exemple. Et là aussi, on a fait des progrès, puisque les traitements actuels donnent beaucoup moins ce genre de complications à long terme. Pas supprimés, mais donnent beaucoup moins.
Alors, cette question de France qui nous dit ceci, dites à vos élèves que les effets secondaires des médicaments ne sont pas négligeables et que les effets psychiques sont encore pires. Mon fils fuit la relation à autrui et se réfugie dans les livres. Il ne veut pas parler de sa maladie et est profondément malheureux. C'est vrai que l'aspect psychologique, on n'en a pas encore parlé hein, au cours de l'émission. C'est également un critère important dans la prise en charge hein, du VIH.
C'est capital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, sur le plan purement médical, on y arrive quand même beaucoup mieux. C'est vrai que les patients restent avec un poids de leur diagnostic, avec une difficulté de l'acceptation dans l'entourage, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit dans la société, qui est pesant tous les jours. Et c'est ce que les patients nous racontent tous les jours, c'est qu'ils ont ça dans la tête et que ça n'en sort pas, et que c'est extrêmement difficile pour beaucoup d'entre eux de vivre avec ça toujours.
Victoria, une question.
Faudrait-il mettre en place un moyen de prévention pour les non-séropositifs face aux séropositifs? Il faudrait peut-être leur dire que justement leur regard a une importance très grande sur les malades.
Bien sûr, ça rebondit sur la question de l'auditrice précédente. C'est que effectivement, je pense que un des problèmes majeurs, c'est l'isolement dans lequel sont placés un certain nombre de patients, isolement social, mais isolement affectif aussi, et que c'est notre responsabilité à chacun de faire en sorte que ça soit un sujet dont on puisse parler avec les patients.
Yves Michaud, sur ce thème.
Moi, j'ajouterais seulement que c'est de manière générale le problème de l'attitude des gens bien portants vis-à-vis de la maladie, parce que les questions de ce genre se posent aussi par rapport aux gens qui ont un cancer, par exemple. Ce qui me frappe, c'est qu'au fil quand même de 25 ans de crise du sida, un certain nombre de tabous sont tombés, un certain nombre de croyances complètement quasiment pathologiques ont disparu. Je veux dire, on stigmatise moins. Il y a encore du travail à faire, mais encore une fois, je crois que il y a aussi tout notre rapport de bien portant à la maladie, surtout dans une société qui valorise d'être bien portant et d'être absolument éclatant de santé.
Pierre de Truchy, Yves Michaud et les élèves. On vous retrouve donc dans un instant, juste après Abdel Malik. Le dernier thème de ce sujet avec l'avenir de la maladie, les traitements. Et je crois que c'est Léna qui a la première question sur ce sujet. Bonjour Léna.
Oui, bonjour. Je voulais savoir, j'ai entendu dire qu'il y avait deux virus, le VIH1 et le VIH2. Et j'aimerais savoir quelle est la différence entre les deux.
Le VIH1, c'est celui qui est responsable de l'épidémie mondiale. Le VIH2 est beaucoup plus limité à une origine en Afrique de l'Ouest à partir d'autres souches simiennes. Hein. Et évolue beaucoup plus lentement, donne moins de maladies. Hein. Mais sinon, c'est le même fonctionnement.
Andreas, une question. Bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais savoir, dans la mesure où le VIH s'attaque à certaines cellules immunitaires, pourquoi on ne fait pas comme avec des leucémies, par exemple, on ne supprime pas nous-mêmes en hôpital toutes ces cellules immunitaires qui sont attaquées pour ensuite les réintroduire une fois que le virus a disparu, parce qu'il n'y a plus rien à attaquer.
Pierre oui. De Truchy, bonne question.
C'est une bonne question, oui. En fait, on n'y arrive pas, parce que le virus rentre dans trop de types de cellules différentes. Il est capable de pénétrer, de se multiplier dans un nombre très important de types cellulaires, et notamment des cellules qu'on ne peut pas supprimer, sauf si on supprime l'individu.
Marie Bayane, oui, ça c'est un petit peu compliqué. Marie Bayane, une nouvelle question.
Oui, alors bonjour. On a entendu parler de séropositifs non progresseurs, c'est-à-dire de séropositifs qui n'auraient pas eu le sida en lui-même. Et j'aimerais savoir s'il ne constitue pas un espoir pour trouver, d'une certaine manière, même si on est contaminé, un moyen de déclarer, de retarder l'apparition du sida.
Alors c'est tout à fait intéressant aussi, et c'est vrai, il y a des patients qui sont infectés par le virus VIH et qui, pour autant, ne développent pas d'immunodépression, ne baissent pas leur T4 et ont un virus qui est contrôlé naturellement, qui se multiplie très peu ou pas du tout. Et ça, c'est probablement des gens qui ont des facteurs génétiques particuliers de résistance à la pénétration et à la multiplication du virus dans les cellules. Et l'étude de ces paramètres génétiques particuliers est sûrement un grand espoir pour trouver de nouvelles pistes de traitement pour les autres.
Jessica, une question.
Au niveau des tests qui sont effectués pour détecter la présence du sida, on sait qu'il en existe deux, le test ELISA et le test Western Blot, mais qui est effectué en second plan une fois que le test ELISA s'avère ou douteux ou positif. Alors pourquoi est-ce qu'on n'effectuerait pas en premier le test Western Blot?
Alors d'abord parce que c'est plus long à obtenir, que c'est plus cher et que c'est plus difficile à interpréter. Donc c'est un test de confirmation simplement. Et je dirais qu'on pourrait rajouter maintenant, puisque ça va devenir à la mode rapidement, il va y avoir des tests rapides de dépistage qu'on va pouvoir faire probablement dans les années qui viennent, directement avec une réponse en 20 minutes, dans des circonstances de lien avec des acteurs de santé, des médecins, des urgences, etc.
Julie, et ce sera la dernière question. Bonjour.
Bonjour. Je voudrais savoir quels sont les obstacles à la mise en place d'un vaccin contre le VIH.
Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais on ne le voit pas venir, ce vaccin.
Alors, on ne le voit pas venir et toujours pas. Mm-hmm. Et je dirais que j'ai de nouveau rien à répondre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun espoir pour l'instant sérieux de réalisation d'un vaccin prochainement. Alors, pourquoi on n'y arrive pas? Il y a plein de raisons différentes. Probablement, les plus importantes, c'est que le virus est tellement variable, qu'il y a tellement de sous-types et de variations génétiques du virus que c'est difficile d'établir des défenses contre tous ces types de virus. Aussi parce que les anticorps qu'on arrive à faire produire par une immunisation sont pas suffisamment protecteurs, parce que le virus lui-même dégrade les propres cellules de défense et donc empêche même la défense vis-à-vis du vaccin lui-même.
Et fin 2007, un essai de vaccin contre le sida a été arrêté. Hein, on en avait beaucoup parlé du fait de l'absence de résultats. Et en plus, il facilitait l'infection du virus. Merci à tous pour vos questions, les élèves de terminale du lycée Hélène Boucher. Alors, pour les auditeurs, on pourra retrouver la vidéo de cette conférence, de ce rendez-vous sur le site de l'UTLS, yvesmichaudutls.fr, avec d'autres conférences à venir pour vous. Hein, vous n'arrêtez pas de toute façon.
Non, nous n'arrêtons pas. En juin, nous aurons une grande série sur la croissance verte et même la décroissance verte, hein, puisqu'on est en crise.
Et on se retrouve le 10 avril ensemble avec l'UTLS au lycée Diderot de Marseille. Merci à tous. À bientôt.